Connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible. Give and take.
And in mine, we are better together. We are the ocean tide, freedom and the anchor. When we're together, we are better together. We are the day and night. Together we are stronger. We are stronger. A starry sky, solitary sparks that find a greater light. Desert land, sprawling miles and miles with only grains of sand. Oceans from drops of rain, everybody made the same. We are better together.
Soldier matters, all the unborn matter, every gay life matters, fundamentalists matter, here's to life and all its branches.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.
Yeah, oh, yeah, yeah. Come on.
Make me your radio, right. And turn me up when you feel.
stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the head. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, 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 oh. Make me your radio. Come on. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along, sing to my stereo.
I'll
take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.
Our love is dead, but now you're changing.
Yeah.
My mind.
Yeah.
Come on. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio. Turn me up when you feel low. Stereo.
Heroes avec Adam Levine, Stereo Hearts sur Phare FM. Il est 4h07 et c'est la radio Autrement qui vous accompagne encore dans la nuit Autrement jusqu'à 5h. Je suis ravie d'être avec vous. On est jeudi, on est le 26 juin. Votre programme pour un réveil en douceur, vous allez pouvoir retrouver Patrice Martorano tout à l'heure dans Pain de vie. Il sera question d'esprit de conquête et puis hommes et femmes, mode d'emploi et de la musique, tout plein, tout plein. Tout de suite, Rizza avec Mi Enamore. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon réveil et une excellente journée.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
Gentiment, faut qu'on parle gentiment. Et sentiment, faut qu'on parle sentiment. Ah, et compliment, tu donnes des frissons comme le piment. Tu viens de quel continent? Faut que je fasse mes documents. Ah, tu me fais des coulisses sombres. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mesdames, tu veux quoi ma bonita, les villas, les bolidas, vivre à Santa Monica, un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita, tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles, t'aimes trop faire ta loquita et le soir tu danses comme Anita. Ah, tu me fais les coulisses sombres, oh, 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 qu'est-ce qu'on va faire ce soir? mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? Oh mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? M'enamoré, yo m'enamoré, la vie d'Elmosa t'est mamma, toi contre moi, ma mamma, moi contre toi, ma mamma, jusqu'à Rio. Oh, m'enamoré, yo m'enamoré, la vie d'Elmosa t'est mamma, toi contre moi, ma mamma, moi contre toi, ma mamma, jusqu'à Rio.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
J'ai commencé à regarder des documentaires sur le foot et je suis tombé sur un documentaire qui vient de sortir sur Netflix sur les histoires des nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Il y a eu plus de 20 Coupes du Monde, 21 je crois de mémoire, et il y a seulement 8 nations qui ont gagné la Coupe du Monde. Et donc, j'ai regardé les unes derrière les autres, et là, je tombe sur 1998. Le jour... Ah, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Et le jour où la France a organisé son mondial, a gagné la Coupe du Monde. Et c'était très intéressant. Et là, Thuram parlait, il y avait plusieurs joueurs qui étaient interviewés. Et à un moment donné, c'est Lilian Thuram qui parle, et il m'a vraiment... toutes sortes de choses qu'il a balancées sur cette période-là qui m'ont vraiment interpellé. Et il disait que en fait, au début, ils avaient extrêmement peur, ils étaient critiqués par tout le monde. Et puis, les matchs ont commencé à se succéder les uns derrière les autres. Et là, lorsqu'ils sont sortis de poule, je vous fais une histoire très brève, hein, ils jouent contre le Paraguay et ils sont pas vraiment sûrs d'eux, même s'ils sont vraiment les favoris, ils sont un peu en stress. Et pour ceux qui se souviennent un peu, les footeux ici, ils gagnent. C'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde où il y a eu le fameux but en or. Il n'y a pas de prolongation, ça s'arrête là. Et l'équipe a gagné. Et waouh, ils s'en sortent juste. Contre l'Italie, pareil, 0. Match nul et ça va jusqu'au tir au pénalty. Et à chaque fois que Thuram dit mais on était dans l'inquiétude, on n'était pas sûr et comment ça allait se passer. Et puis là les Italiens c'est au tir au but, ils ont failli se faire éliminer. Et puis derrière la Croatie, même si c'est une jeune nation, ils ont des super footballeurs. Et là vous savez un peu l'histoire, Thuram qui avait pris le premier but, Thuram qui avait jamais marqué de sa vie et jamais plus après ce match-là va marquer les deux buts de la victoire. Et là les gens c'était comme moi. Et là tu te dis bon, bah, s'ils ont eu peur jusqu'à maintenant, ça va être quoi le jour de la finale de la Coupe du Monde? C'est pas le Paraguay en face, c'est pas la Croatie, c'est le Brésil. C'est les champions du monde en titre. Ils ont un maillot avec plein d'étoiles dessus pour rappeler que c'est eux les boss. Et là, Thuram explique, ils sont dans le tunnel. Ça se passe comme ça toujours. T'as un tunnel où t'as les deux équipes qui sont rangées en file indienne, les uns derrière les autres. Et là, les Brésiliens sont là. Il y a Ronaldo, le Brésilien, le phénomène. Il y a des joueurs de dingue. Et là, tu as Thuram. Eux, ils ont, à ce moment-là, la France, il n'y a pas d'étoiles sur le maillot. Et là, tu te dis, mais ils vont flipper, ils vont avoir peur. C'est la finale, la pression, l'angoisse, etc. Et là, Thuram dit un truc qui m'a fait halluciner. Il dit, en fait, je les ai regardés. Et ils avaient beau avoir plein d'étoiles, ça avait beau être le Brésil, je savais, contrairement aux autres matchs d'avant, je savais que là, on allait gagner. C'était juste impossible. On ne pouvait pas perdre. Et il dit au journaliste, vous savez pourquoi? Le journaliste, c'est pas, il dit non, pourquoi? Et il dit, ben, parce que ce soir-là, ce jour-là, je savais qu'on avait rendez-vous avec l'histoire. Et quand tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire, même s'il a plein d'étoiles sur le maillot, c'est sûr, il va perdre. Et lorsqu'il a dit ça, je me suis dit, j'avais envie de dire, je me suis levé sur mon canapé, je dis, vas-y, prêche, mon gars, c'est bon ce que t'es en train de dire. Quand tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire, peu importe qui il est condamné à la défaite. Regardez Moïse. Moïse se retrouve seul avec un peuple qui est complètement désabusé. 400 ans d'esclavage. Il se retrouve devant une mer rouge, un océan d'impossibilités devant lui. Derrière, il y a Pharaon avec une armée complètement aguerrie. Ils sont là, la cavalerie. Tout est là pour dire qu'ils vont prendre la raclée de leur leur vie. Sauf que ce jour-là, Moïse, avec tout le peuple, avait rendez-vous avec l'histoire. Et peu importe l'adversaire qu'il y a, il va perdre. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, un géant, David c'était un petit ado, une petite tête de blondinet. L'autre était un homme de guerre depuis sa naissance. Il a un glaive, il a un casque, il a un bouclier, il a des grosses sandales, il a toute l'armure. Sauf que David a rendez-vous avec l'histoire. Ce jour-là a marqué une décision. Ce jour-là a marqué un tournant, un momentum. Le petit berger est devenu un leader incroyable. Lorsque tu as rendez-vous avec l'histoire, même si ton adversaire a un champion du monde, a un maillot avec plein d'étoiles, j'aimerais te dire, ton adversaire a perdu d'avance parce que la victoire a été remportée. Alors que tous ceux ce soir qui pensent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire applaudissent le roi des rois. J'ai, et c'est le titre de mon message ce soir, un rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui croient ce soir qu'on a rendez-vous avec l'histoire? Est-ce que vous croyez qu'en 2019, vous pouvez avoir dans votre situation, dans les circonstances de votre vie, un rendez-vous avec l'histoire? Et peu importe le nom de votre adversaire, qu'il s'appelle Pharaon, qu'il s'appelle Goliath, qu'il s'appelle addiction, qu'il s'appelle peur ou angoisse, quand tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire est vaincu d'avance. Vous savez, j'aime vous le dire des moments avec beaucoup d'humour, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin, et à la fin, c'est nous qu'on gagne. T'as rendez-vous avec l'histoire et tu vas remporter la victoire. Alors c'est le titre de mon message de ce soir, rendez-vous avec l'histoire. Vous savez, des moments quand quelqu'un nous demande quelque chose et puis on n'a pas trop le goût, etc. Et vous savez, la célèbre citation, la célèbre contre-argumentation, tu dis « je peux pas, j'ai piscine ». Mais maintenant, c'est, je peux pas, j'ai aquaponais. Je sais pas c'est quoi ce truc, aquaponais. Mais maintenant, quand quelqu'un te demandera quelque chose et que tu n'as pas le temps, parce que tu dois développer l'appel de Dieu dans ta vie, plutôt que de dire je peux pas, j'ai aquaponais, dis-lui je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Et là, tu lèves la tête, tu bombes le torse, c'est comme un prince, tu pars. Je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. J'ai une vie à vivre pour le roi des rois, pour marquer ma génération. Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous et il désire ce soir nous donner ce rendez-vous pour que nous puissions faire une différence dans notre génération et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois, s'il vous plaît. Alors, premièrement, on doit comprendre ceci. Les grands conquérants prennent leurs responsabilités. Malheureusement, il y a cette notion de cette mentalité que l'on retrouve. C'est plus de 90% de la population qui est comme ça. Et c'est vraiment des choses même qui rentrent. Vous savez, des moments quand on parle de la pensée, de la mentalité du monde qui peuvent rentrer dans l'église, c'est vraiment une mentalité qu'on peut retrouver dans l'église. Ailleurs, hein, pas chez nous, mais ailleurs, des moments on retrouve cette mentalité où les gens se victimisent, trouvent toujours des excuses pour éviter de jouer la finale de la Coupe du Monde. Ils sont trop grands, ils sont trop forts, ils sont trop ceci, puis nous on n'est pas capables, et puis tu comprends, j'en suis là, c'est de la faute de Sarkozy, de Hollande, c'est de la faute de Macron, c'est lui, ah, c'est de la faute de ma femme, si je n'étais pas marié avec elle, tu verrais, pasteur, tout ce que je pourrais faire, c'est de la faute de mes enfants, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de mon patron, de mon collègue au boulot, c'est eux qui m'empêchent de conquérir et d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. J'aimerais vous inviter ce soir et vous interpeller afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui ne vont pas se victimiser, qui vont se tenir debout devant le roi des rois en disant « Je vais prendre mes responsabilités, je ne vais pas me cacher derrière des excuses et je vais vivre ce que Dieu a prévu pour ma vie. » Napoléon Bonaparte, un des plus grands conquérants, il était toujours entouré de gens qui avaient toutes sortes d'excuses pour lui dire qu'il ne pouvait pas y arriver. Et au bout d'un moment, Napoléon a commencé à sortir une expression qui est devenue célèbre aujourd'hui. Et il dit « Impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Impossible n'est pas français. » Et tous ceux qui étaient autour de lui n'avaient plus le droit de dire « impossible ». Et là, d'un seul coup, les mentalités ont commencé à changer et ils sont partis à la conquête du monde. Nous ne sommes pas, et puis c'est pas, je ne fais pas la gloire de Napoléon et toutes sortes de choses que j'apprécie pas, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on arrête de se chercher des excuses, qu'on comprend que nous avons tous ici, chacun, peu importe l'appel, peu importe ce que Dieu nous demande d'être et de faire et d'accomplir, la réalité, nous avons tous rendez-vous avec l'histoire. Soit tu prends la décision de te cacher derrière des excuses et des impossibilités, ou soit tu dis « impossible n'est plus dans mon vocabulaire parce que mon Dieu est le Dieu du tout est possible et avec Dieu, j'accomplirai des exploits. » Je vais aller de l'avant. Je ne veux pas avoir cette montée. Je veux devenir responsable. Même si tes excuses sont vraies. Parce qu'en règle générale, les excuses que l'on trouve sont vraies. C'est vrai que des moments, il y a des choses, c'est des galères. Mais la chose qu'on devrait se demander, c'est est-ce que des gens dans ce monde, avec les mêmes circonstances que moi, par exemple, si tu dis que t'as pas assez d'argent, c'est vrai, ne nous mentons pas, le manque d'argent peut être un problème. Ou par exemple, je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants. C'est vrai que des enfants, c'est une responsabilité. Mais est-ce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un avec les mêmes problématiques que moi qui a réussi à accomplir et à faire des choses glorieuses pour le roi des rois? Si tu en trouves, et tu en trouveras, ils sont la preuve tangible qu'il n'y a pas d'excuses et que tu peux accomplir ce que Dieu te demande d'être. Je crois que nous grandissons lorsque nous devenons responsables et que nous comprenons le sens de ce que Dieu veut pour nous, notre rendez-vous avec l'histoire. Lorsque j'ai commencé à travailler, la dernière année de mon école, je faisais des extras dans un magasin et les samedis je travaillais en tant que vendeur. Et juste quand je finis mon école, ils m'ont embauché. 70% c'était peut-être de la vente, mais derrière il y avait toutes sortes de trucs, de logistique, de secrétariat à faire, etc. Et moi je préférais vendre. Et forcément j'oubliais toujours des petits trucs dans les bons de commande. Et la secrétaire, la responsable des secrétaires, Françoise, je me souviens, Françoise m'appelait, Patrice est demandé. Et là j'arrivais et là elle me disait, t'as oublié de mettre ça sur le bon de commande. Et à chaque fois je disais, ah ouais, c'est le client, il a oublié de me le dire. Ouais, t'as oublié d'avertir le magasinier parce que c'était le dernier produit, il faut que tu amènes pour qu'il soit envoyé. Ah ben ouais, mais l'ordinateur, il avait dit deux. J'avais vu deux, j'avais pas vu un. Et à chaque fois, j'avais toutes sortes d'excuses. Et un jour, alors que j'arrive au bout de 4, 5, 6 mois, j'avais 19, 20 ans, et là, un jour, j'arrive, et elle va pour me faire un reproche d'un truc que j'ai oublié de faire, et je vais encore pour trouver des excuses. Et là, elle me regarde, elle m'arrête net. Et Françoise, la responsable des secrétaires, m'a donné ma première leçon de leadership de toute ma vie. C'est elle, c'est Françoise qui me l'a donné. Elle me regarde et avant que je parle, elle m'a dit, Patrice, passez, arrête s'il te plaît. Je dis quoi? Elle me dit, tu sais quoi? T'as toujours des excuses. À chaque fois qu'il y a un truc, t'as toujours une excuse. Elle me dit, tu sais quoi, dans la vie, si tu veux un jour progresser et monter les marches et faire des choses incroyables, il y a une chose que tu dois comprendre, tu dois arrêter de toujours trouver des excuses et tu dois apprendre à devenir un responsable. Parce que c'est quand tu es responsable que les choses changent. Alors tous ceux qui veulent être responsables dans ce lieu, applaudissent le conseil de Françoise. Les choses changent. Quand tu veux devenir responsable, j'arrête de toujours trouver des excuses. J'arrête de toujours me cacher derrière toutes sortes d'impossibilités. Je crois que les choses peuvent changer. J'aimerais juste regarder avec vous cette histoire, ce groupe. Vous avez entendu certainement des dizaines de prédications sur ce groupe-là. Moi, en 8, 9, 10 ans que je suis là, j'ai fait 3, 4 messages sur cette pensée de Josué, Caleb avec les 10 autres. Vous savez, ils sont devant le pays promis. Puis Moïse prend une équipe de 12 joueurs, de 12 leaders, et ils sont là, ils les envoient inspecter le pays promis en espion incognito, et là les 12 doivent partir et revenir et faire un rapport, et lorsque ils reviennent, ils voient tous la même chose, on est d'accord, ils ont les mêmes yeux, ils ont vu la même chose, les mêmes couleurs, la même réalité spirituelle devant eux, mais quand ils reviennent, il y en a 10 sur 12, vous savez, c'est comme quand ils sont dans le tunnel, ils sont prêts à aller jouer le match, la conquête du pays promis, la coupe du monde à eux, et ils sont là, ils sont dans le tunnel, et la bagarre n'a pas encore commencé, la conquête n'a pas encore commencé, ils sont juste dans le tunnel avec les adversaires qui sont là, et là la Bible nous dit que les 10 d'entre eux sur les 12 vont revenir et ils vont faire un rapport extrêmement pessimiste. Ils vont dire, ouais, la terre que Dieu nous avait dit, ils vont faire toutes sortes d'excuses pour pas y aller. Ouais, c'est une terre, vous pouvez lire ça, c'est une terre qui dévore ses habitants, et puis on a vu des scorpions et on a vu des géants de la race d'Anak, et puis ils ont commencé à trouver des excuses pour eux. Nous étions à leurs yeux comme des petites sauterelles. Franchement, on peut pas y aller. Il y a un rendez-vous avec l'histoire. Mais de toute évidence, Dieu s'est trompé. On peut vraiment pas y aller. Regarde ton voisin, dis-lui, t'es pas une sauterelle. Vas-y, dis-lui, t'es pas une sauterelle. T'es pas une sauterelle. Ça, c'est des gens qui se cherchent. Ceux qui se cherchent des excuses ratent les rendez-vous que Dieu a placés sur leur vie. J'espère qu'il n'y a aucune sauterelle dans ce lieu, mais les rendez-vous que Dieu nous a placés devant nous, on veut y aller, on ne veut pas rater le rendez-vous. Parce que rater un rendez-vous, c'est repartir dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui veulent retourner dans un désert? Non, on veut pas. Hein. Et là, les deux autres, ils sont pareils, ils sont dans le tunnel. C'est juste le moment, le match a pas encore commencé. Eux, ils regardent, même s'il y a des champions du monde autour d'eux avec toutes sortes d'étoiles, eux, ils sont là, ils sont confiants. Ils savent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire. Et quand t'as rendez-vous avec l'histoire, il n'y a pas un adversaire qui peut tenir. Alors Josué et Caleb disent, mais non, il faut y aller, la terre elle est bonne, c'est pas vrai, c'est pas une terre qui dévore ses habitants, c'est une terre où coule le lait et le miel, et puis ces gens, ils vont nous servir de pâture, on va remporter la victoire. Ouh, j'aimerais vous, à votre avis, est-ce que le pessimisme est contagieux? J'aimerais vous dire, les deux ont renversé la situation, et hop, ils sont tous partis. Non, non, le pessimisme est tellement contagieux. Les gens qui cherchent des excuses arrivent tellement à argumenter qu'ils ont réussi à prendre la majorité et à faire basculer. Et à cause de cet état d'esprit-là, ils vont retourner dans le désert pendant 40 ans. Et vous savez quoi? C'est malheureux, mais c'est là pour nous servir d'exemple. Ceux qui se cherchaient des excuses pour ne pas jouer la finale de la Coupe du Monde, pour ne pas aller remporter la victoire, la conquête du pays promis, la Bible nous dit, ils sont tous morts dans le désert. Ils n'ont jamais rien remporté. Mais les deux autres, 40 ans plus tard, Josué et Caleb, se sont retrouvés devant le pays promis. Ils avaient de nouveau rendez-vous avec l'histoire. Josué était devenu le leader du peuple. Et là, il y a Caleb. Caleb, il arrive et là, il a 80 ans à ce moment-là. Mais la Bible nous dit ceci, si tu peux mettre la diapo. La Bible nous dit de Caleb, que Caleb était animé d'un autre état d'esprit. Vous savez, le mot esprit ici, c'est un petit E minuscule. C'est pas le Saint-Esprit. Comprenez-vous? C'est l'esprit humain. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Et la Bible nous dit que Caleb avait un état d'esprit qui était différent des 10 premiers qui ont retourné, qui sont morts dans le désert. Lui, il a vu une montagne. Il a vu des possibilités. Il a vu le rendez-vous avec l'histoire. Et il s'est dit, je ne raterai pas de nouveau ce rendez-vous avec Dieu. Je vais y aller et je vais remporter la victoire. Écoutez bien. Il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Ouais, ben là, 40 ans dans le désert, maintenant je suis fatigué. Hein. Puis j'ai 80 ans, quoi. 80 ans, c'est pas jeune. Hein. Vous savez, il y a un truc que j'ai remarqué en vieillissant maintenant au fil des années. Quand t'as 20 ans, les vieux, c'est ceux qui ont 40 ans. Est-ce que vous avez remarqué? Quand t'as 20 ans, un vieux, il a 40 ans. C'est lui, c'est ça. Quand t'as 40 ans, maintenant t'es jeune. Pour toi, le vieux, c'est celui qui a 60 ans. Ok? Sauf que si tu vas voir ceux qui ont 60 ans, ils sont pas vieux. Ils vont dire, mais nous, on est vieux. Vous imaginez pour ceux qui ont 20 ans, oulala. Et ceux qui ont 60 ans, ils vont dire, mais non, on n'est pas des vieux, nous. Les vieux, c'est ceux qui ont 80 ans. C'est ça, c'est toujours comme ça. Sauf que quand t'arrives à 80 ans, est-ce que vous avez remarqué que quelqu'un qui a 80 ans, il dit pas, mais non, les vieux, c'est ceux qui ont 100 ans. En fait, à un moment donné, ouais, c'est nous les vieux, quoi. À un moment donné, c'est toi le vieux, tu vois. Et là, Caleb, il a 80 ans. C'est un vieux. Il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses. Seigneur, mais pourquoi je suis pas rentré dans le pays promis quand j'avais 25, 30 ans, quand j'avais 30 ans, 40 ans, la force de l'âge, etc., la maturité, l'âge. Pourquoi 80 ans? Pourquoi je suis resté dans le tunnel avec tous mes adversaires pendant des années? Il aurait pu complètement se décourager. Mais j'aimerais vous dire, Caleb était animé d'un autre état d'esprit. Il avait une autre mentalité. Et même à 80 ans, le gars, il est resté frais, il a vu une montagne, puis il a dit, Josué, donne-moi ça, tu vois, je vais m'en occuper, allez pour moi. Comprenez-vous? Parce qu'il était animé d'un autre état d'esprit. Il n'avait pas un état d'esprit de quelqu'un qui se cherche toujours des excuses. Il comprenait qu'il avait rendez-vous avec l'histoire. Il a pris ses responsabilités. Et même s'il était âgé, il a pris ses responsabilités. Il ne les a pas données à quelqu'un d'autre de plus jeune ou ceci ou cela. Il a dit, moi, je suis là et donne-moi cette montagne et tu vas voir. Même à 80 ans, c'est moi qui vais aller chercher là, qui vais aller chercher la montagne. Alors que tous ceux qui croient que Dieu nous a donné un rendez-vous et qui sont prêts à entrer dans ce que Dieu a prévu, disent amen et applaudissent le roi des rois. J'ai rendez-vous avec l'histoire et je vais y aller. Et j'ai arrêté de me chercher des excuses parce que je crois que, si tu peux mettre l'autre diapo, que les gens et les circonstances n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Je crois vraiment à cette réalité. Demande des gens me posent la question, mais Patrice, comment tu fais, machin, l'église, il y a beaucoup de monde, et plus de 1000 personnes, 1400, 1500 personnes, les pressions, l'extérieur, le machin, le ceci, le cela. Et à chaque fois, ma réponse, elle est simple. J'ai compris cette réalité très jeune dans le ministère, j'étais stagiaire quand je l'ai compris. En voyant certaines choses qui se passaient autour de moi, j'ai compris que les gens autour de moi n'ont que le pouvoir que je leur donne sur ma vie. Ouais. Comprenez-vous? Et à partir du moment où tu comprends ça, d'un seul coup, plus personne n'a de pouvoir sur toi, si ce n'est Dieu. Ou alors les gens à qui tu donnes ce pouvoir, c'est-à-dire des proches, ta femme, tes enfants, ton équipe, etc. Mais les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Les circonstances, c'est exactement pareil. Les choses qui sont autour de vous, c'est le pouvoir que vous leur donnez. Mais si tu leur donnes pas de pouvoir, tu dis non, moi je sais ce que Dieu m'appelle à être, je sais ce que Dieu m'appelle à accomplir, et je ne vais pas donner de pouvoir autour de moi parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Et même si il y a toutes sortes de circonstances qui vont essayer de mettre le doute dans ma vie, je vais aller de l'avant. Je suis dans le tunnel. Je suis dans le tunnel et je suis là et il y a mes adversaires qui sont devant moi. Il y a le match de ma vie, il y a un rendez-vous qui est donné. Et là, il y a mes adversaires et je suis là. Et là, les adversaires essayent de te faire douter. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit qu'il y avait un rendez-vous pour toi ? Dieu a-t-il réellement dit qu'un jour tu accomplirais telle mission pour sa gloire, que tu ferais tel album, que tu ferais telle entreprise, que tu composerais tel chant, que tu vas prêcher l'évangile aux quatre coins du monde ou tout simplement au bout de ta rue ? Est-ce que Dieu a réellement dit ? Et tu es là, il y a un rendez-vous, mais tu es dans ce tunnel, tu es là et tu commences à stresser, angoisser. J'aimerais te dire, ils n'ont que la puissance que tu leur donnes. Ton adversaire n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Si tu lui donnes pas de pouvoir et tu le regardes avec force et courage en disant, ce soir, j'ai rendez-vous avec l'histoire et quelles que soient les situations, quels que soient les adversaires, même s'ils ont un maillot avec plein d'étoiles dessus, je crois que Dieu va m'aider à remporter la victoire. Et ceux qui le croient vraiment l'applaudissent bien fort. Je n'ai pas peur. Je vais avancer. J'ai rendez-vous. Oui, Dieu a réellement dit. Dieu a réellement dit qu'il nous aimait, que nous étions des perles de grand prix, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer, qu'il nous aime d'un amour éternel, qu'il nous a gravé dans la paume de ses mains. Oui, je le crois, qu'il m'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Oui, je le crois, que son nom est une source inépuisable de possibilités. Et quand bien même mes adversaires sont là, je sais qu'avec mon Dieu, je puis tout car il me fortifie. Je vais aller de l'avant. Je marche avec le roi des rois parce qu'il est mon capitaine et je marche à sa suite parce qu'il a déjà remporté la victoire. Il a déjà vaincu l'ennemi et je suis dans l'équipe du vainqueur. Je ne vais pas stresser. Il a déjà gagné. On peut l'applaudir mieux que ça, s'il vous plaît. C'est pourquoi, dernièrement, empare-toi, deuxièmement et dernièrement, empare-toi de la victoire. Regardez ce qu'il est dit. David va dire ceci. David, un homme qui a su être dans des grands rendez-vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans son tunnel à lui, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dites-le avec moi. Oui. Dites-le avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? David dit ceci. Lorsqu'il écrit ce psaume, je n'ai jamais été en Israël, mais on m'a montré des photos du lieu où ce psaume a été écrit. C'est un lieu qui est désertique, c'est un lieu qui est caillouteux et aride. Et pourtant, le psaume 23 commence en disant « L'Éternel est mon berger, il me conduit vers des eaux paisibles et les prairies verdoyantes et toutes ces choses-là. » Or, la réalité, David voyait ces choses-là, c'était aride, mais par la foi, il savait qu'il avait un rendez-vous. Par la foi, il savait qu'il allait remporter des victoires. Et là, là, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis dans mon tunnel à moi, avant que le bonheur et la grâce m'accompagnent, juste avant, là, juste avant d'être sous les spots et de gagner la Coupe du Monde, juste avant, je suis dans un tunnel, la vallée de l'ombre, le tunnel de la mort. Et dans ce tunnel, il y a mes adversaires qui sont à côté de moi. Ils me regardent pour me tétaniser. Ils me regardent pour me dire que je ne suis qu'un gamin, pour me dire que je ne suis pas capable. Et David est là. À ce moment-là, David était un berger. Et souvent, les brebis se blessaient. Soit se blessaient parce qu'ils étaient attaqués par d'autres animaux, puis il y avait des coups de tête, et puis elles étaient blessées. Ou alors, il y avait les mouches qui venaient pondre leurs œufs avec toutes les infections et toutes ces choses qui étaient là. Et les bergers mettaient une sorte d'onguent, de grosse pommade, une grosse onction que le berger avait fait avec des aromates, etc. Et ils couvraient la tête de la brebis afin que lorsque quelqu'un venait pour essayer de frapper un autre animal, frapper la tête de la brebis, ça glissait. Il n'y avait pas de prise. Il y avait une onction qui empêchait que l'adversaire vienne démolir. Et c'est, dans les aromates qu'il y avait, ça faisait fuir les mouches. Et vous savez, dans les mouches, un des noms de Satan, c'est Belzébul. Ça veut dire le dieu mouche. Et les mouches dans la parole de Dieu représentent toutes ces pensées qui viennent, qui te tiraillent, qui te tirent vers le bas, qui te conduisent dans une dépression, qui t'amènent à te dire que c'est pas possible et que Dieu pourra jamais rien faire. Ces mouches sont là et te montrent tes adversaires comme étant les champions du monde, comme t'as aucune chance devant eux. Et David dit, tu oins d'huile ma tête, tu mets une onction, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, et tu remplis ma coupe, il n'y a rien d'autre qui peut prendre place dans ma vie, et tu dresses une table devant mes adversaires. Ils sont là, ils sont tous devant moi, mais je sais que je marche avec le roi des rois, avec le seigneur des seigneurs, et quelles que soient les situations, quelles que soient les attaques, quelles que soient les énormités ou les choses où ils vont venir littéralement m'angoisser et me faire peur, je sais que je vais remporter la victoire. Maintenant, comprenez ceci. Tout se joue dans la vallée. Tout se joue dans le tunnel. Souvent, les gens pensent que ça se joue dans le match. J'aimerais vous dire, David a gagné contre Goliath quand il était seul dans le torrent. Il a été choisir la pierre qui allait achever Goliath. Personne ne le voyait, il était là, il a choisi 5 pierres, il les a choisies, il en a pris celle qui était bien polie, il a pris les pierres de l'intercession, les pierres de la puissance de Dieu, il les a choisies, il les a pris une par une, délicates, il a pris du temps, parce qu'il savait que ça se jouait là. Ça se jouait plus sur le champ de bataille. Après, c'était trop tard. J'aimerais vous dire, c'est pareil avec Jésus. Ça s'est joué dans le jardin de Gethsémané. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une fois qu'il est sorti du jardin de Gethsémané, une fois qu'il est sorti, il y avait l'adversaire qui était là. Il y avait l'ennemi qui était là. Tel un lion rugissant qui venait l'angoisser. Il y avait tout ça qui était là. Mais là, dans le tunnel, ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous avec l'histoire. Et peu importe l'adversaire, qu'il s'appelle Satan, qu'il s'appelle Goliath, qu'il s'appelle celui qui te stresse et qui t'angoisse, lorsque tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire n'a aucune chance. Et là, il s'est retrouvé là. David s'est retrouvé là. Il a choisi sa pierre. J'ai demandé aux musiciens si vous pouviez revenir. David a choisi sa pierre. Et là, il est parti devant Goliath. Et vous savez ce qui s'est passé, tout simplement. Il a pris sa pierre. Goliath s'est pointé. Mais ça, c'était le jour du match. Mais il avait déjà remporté. Lisez, relisez l'histoire de David. Je vous invite, vous rentrez chez vous ce soir, relisez l'histoire de David et dites-moi quand vous allez lire l'histoire de David, dites-moi si vous avez l'impression de lire l'histoire d'un gars qui doutait de la victoire. Absolument pas. Quand David part et il commence à courir contre Goliath avec sa fronde et sa pierre, une arme puissante par les vertus de Dieu, j'aimerais vous dire, il savait déjà qu'il allait gagner. Il avait rendez-vous avec l'histoire. Et Goliath, il avait beau faire 3, 4, 5 têtes de plus que lui, l'adversaire n'avait aucune chance. Et David a remporté la victoire.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur églisemomentum.com.
Il est 5h moins 20 sur Phare FM ce jeudi 26 juin. Si vous venez de rejoindre Phare FM, la radio autrement, bienvenue. Notre programme se poursuit. We the Kingdom, Child of Love, on l'écoute maintenant.
Lost on a lonely road. eyes chasing the highlight, trying to satisfy my soul. All the lies I believed in left me crying like the rain. Then I saw lightning from heaven, and I've never
cherche, on voit bien que les fleuves s'assèchent, mais on persiste et on résiste. On sent bien que l'amour est fragile, on se tient quand nos vies vacillent, et on s'accroche, on se rapproche. Si on allait toucher le ciel, là où se cache l'essentiel. Si on déployait nos ailes comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, décrocher la lune comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, au sommet des dunes. Semblant, on retient. appartient, nos rêves, nos élans. Puis on regrette, on veut s'y remettre. On revient toujours au combat. À la fin, peut-être qu'on gagnera. Alors on se donne, on croit en l'homme. Si on allait toucher le ciel, là où se cache l'essentiel. Si on déployait nos ailes comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, décrocher la lune comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, au sommet des dunes. La lune comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, au sommet des dunes.
Rêver plus beau, ce n'est plus vraiment l'heure de rêver plus beau. Si vous devez vous lever pour aller travailler, eh bien je vous souhaite à mon réveil une excellente journée, bon courage pour ce jeudi. Et je vous propose de poursuivre en musique. I'm sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. C'est maintenant sur la radio Autrement et tout à l'heure, votre prochain rendez-vous, Hommes et Femmes, Mode d'Emploi.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else. I couldn't take it anymore. I was already running for the kitchen doors. You were always the one to show me.
femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour. En partenariat avec The Watchers.
Aujourd'hui, nous parlons des règles de conflit.
Les temps morts, c'est notre gros point chez nous aussi.
Voilà, alors comme on a des réactions et des comportements, des caractères très différents, en fait, l'un des deux peut être plus froid et analytique, l'autre plus explosif et méditerranéen. Donc en fait, c'était très inégal la façon
dont... Vous avez dont ça, on... ça me rappelle un truc.
Donc, oui,
non, pas du tout, non.
Et donc en fait, nous nous sommes rendus compte que, alors c'est juste l'une de nos règles, mais on se donne une demi-heure de respiration sans être dans la présence l'un de l'autre.
Un temps mort, quoi.
Et puis si ça suffit pas une heure, et le maximum c'est une heure et demie. Mais au bout d'une heure et demie, on sait que c'est notre engagement l'un vis-à-vis de l'autre, on va réengager pour discuter sur ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps mort?
Alors ce que l'on suggère, nous ce que l'on fait, c'est qu'on va bouder chacun dans notre coin.
On parle à Dieu.
Une fois qu'on a déboudé ou qu'on va un peu mieux. Très important, si vraiment on est dans un petit appart ou on peut sortir, mais autant que faire se peut, essayer de rester à l'intérieur. Si vous devez sortir pour aller marcher, respirer, prendre l'air, ne claquez pas la porte en disparaissant, parce que ça envoie presque une menace contre le couple, c'est je disparais, tu sais pas si je reviendrai un jour. Mmh. Donc vraiment, si j'ai besoin de sortir, je veux dire à ma femme, écoute, je sors, mais je reviens dans une demi-heure ou je reviens dans une heure, tu peux me joindre sur mon téléphone, vraiment, je suis engagé à revenir et à trouver une explication avec toi, mais ne prenez pas une moto, une voiture, c'est dangereux de prendre quelque chose avec un moteur. Dans ces moments-là, quand on est énervé, un accident peut vraiment arriver. Simplement, je sors pour respirer, parler avec Dieu, décompresser physiquement, émotionnellement, et puis réfléchir à ce qui vient de se produire pour pouvoir ensuite l'amener dans la discussion avec mon épouse.
Et juste pour terminer, notre petite astuce à nous, quand on se retrouve, même oui. Des fois on n'a pas envie de parler, mais on a fait le choix, avant d'être dans la tempête, là, de réengager, et on commence par se tenir les mains, parce que ça va dégager une hormone qui s'appelle l'oxytocine qui va nous rattacher, et en fait ça va décapiter la colère. On n'est toujours pas d'accord, mais on va pouvoir discuter du problème. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est simplement de réfléchir à nos règles de conflit comme le ring de boxe avant qu'on...
L'oxytocine, en fait, enlève le « il faut que je gagne cette discussion et il faut qu'on trouve la solution ensemble qui sera gagnante-gagnant. »
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Tell the reaper, tell the reaper my name.
Jean-Marc Macmillan, Love at the End sur Phare FM. C'est aussi The End de la nuit autrement. Dans quelques minutes, retrouvez Bonjour chez vous et à partir de 5h30, Innocent dans Cocorico. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon jeudi avec Phare FM. Et je vous laisse avec Rachel Lamba et Andrew Rip, Somebody to You. Merci de rester avec la radio autrement. À très bientôt.
They say you're only as good as your last success, and failure's not an option. Maybe that's why I'm exhausted, held so tight to their applause that when it stopped, I thought that yours were too. Till you said that my heart to you's worth everything. Don't gotta be somebody when I'm already somebody to you. Got nothing to prove anymore, so there's nothing to lose anymore. You're gonna keep on loving me for more than just the things that I do. I'll sing it till there's no doubt. Nobody can count me out, 'cause I'm already somebody to you. Nothing to prove anymore. There's nothing to lose anymore. You're gonna care.